Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur le campus, mais au Café des Arts, rue Saint-Laurent. Et nous sommes avec Marie Bobin et François Gaillard.
Bonjour.
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 Alors, j'ai fait mes petites recherches. Marie Bobin, vous êtes carnétiste et illustratrice, c'est bien ça ?
C'est bien ça. C'est carnétiste, bien ça. C'est-à-dire que je fais des carnets de voyage.
Ça fait longtemps que vous faites ça ?
Ça fait quelques années, oui. Ça fait quelques années. Et ça s'est pas mal développé au moment du Covid, justement, quand on avait moins de concerts dessinés à faire, parce qu'on n'avait plus le droit de jouer dans les salles de spectacle. Et donc, j'ai mis en place des stages de carnets de voyage.
On en parlera plus en détail plus tard. Et nous sommes aussi avec François Gaillard. Vous êtes musicien et auteur-compositeur, c'est bien
ouais,
ça ?
Oui, c'est ça. J'écris mes chansons depuis longtemps, hein, depuis 2000. Et je les chante dans tout terrain, c'est-à-dire des fois dans des grandes salles, des centres culturels, des théâtres, des festivals, des yourtes, des chapiteaux, puis des fois des cafés des arts, même des fois dans les jardins chez les gens, en fait tout. Voilà.
Il me semble que vous êtes passé à Saint-Pierre de Chartreuse dans le camion théâtre de la compagnie de la Petite Utopie.
Ouais, c'est vrai, c'était l'été dernier. Ouais, parce qu'on a une fidélité avec la fabrique des Petites Utopies et Bruno Tircuir, que j'avais fait intervenir en tant que prof à l'IUT là, de Grenoble. Ouais, il était venu faire des cours d'écriture, de fiction.
C'était en quelle année ?
Oh, je ne sais pas, je ne retiens pas les années, moi. C'était il y a quelques siècles. Et depuis, on est restés très copains et on échange pas mal autour de nos spectacles. Alors, il nous a invités dans son camion théâtre et moi, j'ai participé à sa dernière création autour de la magie, un spectacle de magie où j'avais fait un peu d'animation et de vidéo. Voilà.
Si je ne me trompe pas, ce n'est pas le monde... Alors, je n'ai plus le nom.
Ouais, la fin du monde n'est pas pour demain.
C'est voilà. Ce spectacle-là ?
Ouais. Ouais, c'est ma fille qui a fait les animations de la fin. C'est des plantes qui poussent. Et puis moi, je les ai mis en scène. C'est-à-dire, je me suis occupé de toute la partie technique, vidéoprojection et compagnie.
Alors, par que deux petites anecdotes, François Gaillard a été mon professeur pendant 2 ans.
C'est pas de ma faute.
En BUT, métier du média et de l'Internet. Ouais. Et cet été, j'étais en stage au Poney Sauvage. Et du coup, j'ai pu travailler avec la fabrique.
Eh oui.
Ouais, j'étais passé à Saint-Pierre de Chartreuse à monter
aussi.
le camion théâtre. Mais...
D'accord.
Oui, voilà.
Ouais.
Donc vous deux, vous avez créé la compagnie de l'ailleurs, c'est bien ça ?
C'est ça.
Ça fait combien de temps que cette compagnie existe ? Racontez-moi un peu son histoire, votre rencontre.
Alors ça, en fait, elle est toute neuve, cette compagnie. Le fait de l'appeler la compagnie de l'ailleurs, c'est tout neuf. Mais ça fait longtemps, ça fait, je sais pas, je vais dire peut-être notre premier concert dessiné, c'était en 2017. Donc ça fait 7 ans, 8 ans, si je compte bien. Qu'on fait des spectacles partagés ou des interventions ensemble. Et on s'est dit que c'était chouette de monter une compagnie, d'avoir un nom de structure pour ça. Donc, il y a les concerts dessinés, mais il y a aussi du travail qu'on fait dans les territoires. C'est-à-dire qu'on va... Marie va dessiner, va faire du croquis pour découvrir un lieu qu'on ne connaît pas. Et moi, je pars avec mes micros et mon enregistreur et je vais faire de l'interview, des prises de son. Voilà, alors ça débouche sur des expos sonores avec du dessin ou des bouquins. On a fait un bouquin en Dordogne, là, où quand on tourne les pages, il y a des petits... Donc j'en étais là, oui, quand on tourne les pages, on a les dessins de Marie et puis des petits QR codes qui permettent d'écouter du son qui a été pris. Donc ça, tout ça, c'est la compagnie de l'ailleurs.
Et vous voyagez où ? Vous voyagez seulement en France ou vous allez ailleurs ?
Alors Marie, à toi.
On va partout en fait, on va là où on nous appelle. Le plus loin qu'on soit allé avec les concerts dessinés, c'est au Maroc, où on a joué dans une palmeraie vers Ouarzazate. Devant des enfants de la palmeraie et qui ont dessiné avec nous après. C'était super.
Et après, avec tes stages, tu vas à l'autre bout du monde, par contre ?
Après, ouais, avec mes stages, j'emmène des gens voyager avec moi et dessiner au Groenland, en Laponie, au Sénégal, partout.
Bon, mais là, moi, j'y vais pas.
C'est des stages pour apprendre aux personnes à faire des carnets
leur propre carnet de voyage, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Moi, j'adore ça, les carnets de voyage, c'est trop beau, mais je ne sais pas faire. » Donc, moi, je leur propose de venir avec moi et puis qu'on apprenne ensemble.
C'est vrai que ça met une nouvelle dimension, enfin comparé à des photos et des vidéos, c'est un autre support quoi de faire un carnet.
C'est personnel.
Ouais, c'est personnel. Ouais. Et le spectacle que vous allez jouer ce soir s'appelle Jeter l'encre, E-N-C-R-E, si je ne me trompe pas.
Ouais.
C'est un petit jeu de mots, c'est
ouais,
ça ?
Oui, c'est ça, c'est pas une faute d'orthographe, ou alors elle est vraiment voulue, pour qu'on l'ait mise sur toutes les affiches. Non, c'est un concert dessiné avec du dessin en live sous caméra, donc l'encre, c'est un petit jeu de mots, parce que Marie dessine avec des encres colorées. Et voilà, c'est un petit clin d'œil aux marins, puisque ça parle de marins qui, eux, jettent l'encre quand ils vont au mouillage et qui s'arrêtent à un endroit avec leur bateau.
Est-ce que vous pouvez un peu nous teaser un peu le spectacle ?
Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui disent on n'arrive pas à imaginer du tout ce que c'est ce truc-là. En fait, pour l'histoire, pendant 2 ans et demi, on est allé rencontrer des marins parce qu'on était un peu attirés par ce monde de la mer sans connaître du tout ce que c'était. On est plutôt Marie de Grenoble. Moi, j'ai plutôt grandi à Paris, donc la mer, on connaissait pas du tout.
Pas très près, quoi.
Non, c'est pas fou. Et par contre, on en a rencontré plein des marins et on s'est dit qu'on avait envie d'apprendre ce monde, quoi. Donc on est allé en rencontrer, on les a filmés, enregistrés, on a discuté avec eux. Et à partir de ça, ça faisait une énorme matière documentaire. En fait, il y a énormément de sujets abordés. Et on s'est dit qu'on allait essayer de monter un spectacle qui raconte la mer sous plein de facettes, en mélangeant un peu toutes ces interviews-là. Donc il y a des interviews, des chansons que j'ai écrites, parce que ça m'a inspiré plein de trucs, et Marie qui dessine sous caméra.
Est-ce que quand vous êtes allé voir, c'est marrant, votre idée première, c'était de faire un ciné dessiné ou pas du tout ? C'était pour... les rencontrer et découvrir ce monde-là.
Je crois que ça s'est fait en deux temps. D'abord, on en a rencontré plein, mais on n'avait pas l'idée du concert dessiné. On en faisait un autre, qu'on tournait beaucoup, et on croisait des marins. Et d'ailleurs, cet autre spectacle qui est plus ancien, on l'avait joué en projetant sur des voiles d'un bateau une fois, parce que voilà, ça nous avait attiré ce truc-là. Et puis, à force d'en rencontrer et de se dire quand même, ils ont plein de trucs à raconter vraiment chouettes, c'est là qu'est venue l'idée de faire un concert dessiné. Et là, par contre, on a vraiment travaillé un dispositif d'interview pour que l'image soit exploitable dans un concert dessiné. Donc, ouais.
Et alors, j'ai vu quelques images du spectacle. Il me semble qu'il y a des voiles aussi dans votre scénographie.
Oui, bah en fait, quand on a voulu bosser la scénographie, on s'est dit que c'est un peu bête d'avoir un écran classique. Pourquoi ce ne seraient pas des voiles de bateau sur lesquelles on projetterait ? Donc notre écran, ce sont des voiles de bateau. Alors, pas des vraies voiles, hein, parce que les voiles de bateau, c'est énorme. Mais,
c'est énorme.
On a construit notre scéno de façon à ce que ça ressemble à un bateau.
On en est à notre troisième bateau. Le premier bateau, c'était un truc tellement lourd qu'il n'aurait jamais flotté en vrai sur la mer parce que c'était fait pour être joué en extérieur, avec un mât en acier, des trucs ultra lourds, tout ça. Et puis, à force, on a allégé un peu l'affaire. Et là, maintenant, on a une structure d'écran qui, si on ne fait pas gaffe, c'est une structure d'écran avec une forme un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est des voiles de vieux bateaux. Ouais.
Vous n'avez pas gardé l'ancien bateau ?
On l'a gardé, mais il est un peu plus lourd à déplacer, à transporter, à installer. Donc on est passé à des trucs un peu plus légers. Mais voilà, je pense que pour le spectateur, ça reste un bateau, quoi.
Et ce n'est pas la première fois que vous venez jouer au Café des Arts. Vous êtes venu aussi pour jouer votre spectacle « Tracer la route ».
Oui, effectivement. Ouais. En fait, on a une grande histoire avec le Café des Arts, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, François et moi.
La fameuse rencontre.
Oui, c'est ça. En fait, ça fait très longtemps qu'on vient là. Moi, j'ai fait ma première scène ici, et c'était en 2000 par là. J'étais tout petit chanteur, pas très à l'aise derrière le piano, je m'en rappelle très bien d'ailleurs. Et à chaque fois que j'ai fait un nouveau spectacle, il y en a eu quand même pas mal, ici, l'équipe du Café me proposait de venir le tester ici. Donc pour moi c'est un endroit fort, c'est vraiment revenir chanter à la maison régulièrement.
C'est une ressource quoi.
Ouais, c'est ouais. Ça. Ouais.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce spectacle-là, Tracer la route ?
Tracer la route, c'est venu de... En fait, on a énormément voyagé en fourgon aménagé avec nos enfants, parce qu'on a 3 enfants et on était un peu en tribu comme ça et on s'est baladé dans toute l'Europe.
Est-ce que c'est le fameux fourgon bleu et jaune ?
Alors, il y a eu celui-là qui était garé devant l'IUT quand je faisais cours à l'IUT, où il y avait marqué... Tu avais marqué quoi sur le camion ?
Alors, je me rappelle plus ce que j'ai marqué. On the road again, peut-être ?
Ouais, un truc comme ça, bon bref. Mais avant, il y en a eu un autre qui était une espèce de rebut de la DDE, les vieux camions orange qu'on voit sur les bords d'autoroute. Là, on avait racheté ça, il était tout le temps en panne. Mais en même temps, on en a des souvenirs incroyables de voyages partout en Europe, quoi. Donc on est allé beaucoup en Scandinavie parce qu'on aimait beaucoup ça, les pays du Nord. On est allé aussi en Espagne, au Portugal, enfin, à portée de camion quand même, c'est-à-dire que ça reste en Europe.
Il a fait du voyage ce camion.
Ouais, voilà.
Ouais. Je me rappelle ce que j'ai écrit sur le camion jaune et bleu. C'était marqué transport peu commun.
Ah oui.
Voilà.
C'est vrai.
Et par contre sur le camion orange, le camion d'avant, c'était marqué on s'en fout. Et on s'en fout, ça faisait beaucoup rire les gens, mais nous, en fait, c'est pour dire, bah, on s'en fout si on ne va pas vite.
Pas mal, voilà. C'est bien trouvé.
Il y a des gens qui se prenaient en photo devant.
Et Marie, comment vous avez commencé le dessin? Est-ce que vous avez pris des cours de dessin? Est-ce que vous êtes autodidacte? Enfin, vous faites du dessin et de l'aquarelle aussi?
Ouais, de l'aquarelle aussi, ouais, quand je suis en voyage. Et puis là, là c'est plus des encres plus colorées, parce que l'aquarelle, c'est pas tout à fait assez vif
là, c'est sous la caméra. Là, c'est l'encre que vous
utilisez. Là, c'est des encres, ouais. Ouais, encre aquarelle. Ouais. Mais comment j'ai commencé? En fait, j'ai jamais vraiment appris le dessin. Mais j'ai toujours un peu fait ça. Quand j'étais toute petite, mon papa était photographe, puis il m'emmenait dans la montagne. Il allait photographier des marmottes et ça prenait un temps dingue parce qu'on se planquait derrière un rocher puis on attendait qu'elles sortent.
Pour pas leur faire peur, ouais.
Et moi, je m'ennuyais, donc je dessinais pendant ce temps. Donc c'est, ouais, ça fait longtemps que je fais ça, mais juste comme ça pour le plaisir. Et ça fait quand même peu de temps, enfin depuis 2017, que je le fais sur scène. Un peu poussé par François, quand même.
Ouais, c'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais fait des spectacles où j'avais de la vidéo derrière moi, mais c'était des musiciens que j'avais filmés en taille réelle et j'étais dramatiquement seul sur scène. C'est-à-dire que je me trouvais vraiment seul, c'était que de la vidéo qui m'accompagnait et j'ai proposé à Marie de venir. Je lui ai dit, tu fais du dessin, moi, je fais de la chanson, on peut essayer de faire des trucs sur scène ensemble. Et elle m'a répondu, non, non.
Ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça, donc j'ai trouvé. Bah, voilà, je sais pas, finalement, tu t'y es fait hein, quand même.
Bah oui. Par la force des choses. À cause du Café des Arts, d'ailleurs.
Grâce, ah oui, parce que le café. Il se trouve qu'on est venu écouter un chanteur qu'on aime beaucoup, qui était d'ailleurs moi mon directeur de thèse, parce que j'ai fait une thèse de doctorat ici à Grenoble. Il s'appelle Jean-Luc Schwartz, il chante aussi. Et je crois que ça a été un peu mon modèle pour commencer à chanter d'ailleurs. Et on est venu l'écouter, et en regardant le programme des prochains spectacles du Café des Arts, on a vu qu'on était programmé alors que le spectacle n'existait même pas encore. C'est juste que j'en avais parlé à François du Café en disant, avec Marie, on a peut-être un projet de faire un concert dessiné un jour. Et il nous a pris au mot, il nous a programmé, et comme ça, maintenant, on était obligé de faire le spectacle.
Obligé de se lancer, quoi.
Ouais, voilà. Et on ne regrette pas, hein, mais ça a été un petit coup de speed quand même quand on a vu qu'on était programmé le mois suivant et qu'on n'avait rien encore de prêt.
Mais je me dis qu'en fait, le choix du concert dessiné, en fait, c'était un peu parfait pour vous, par rapport à vos rôles respectifs, quoi. C'est bien trouvé, quoi.
Ouais, ouais, on en voit beaucoup. En fait, on allait en voir pas mal, mais c'était beaucoup en jazz. Ça se fait beaucoup en jazz et c'est de l'impro. Souvent, le dessinateur improvise, les musiciens aussi, et puis ils essaient de se retrouver au point de rendez-vous de temps en temps. Et nous, on a trouvé qu'on n'avait pas envie de faire d'impro, quoi. On voulait faire ça, mais en écrivant une histoire, donc liée à nos histoires de camions. Donc voilà, on a trouvé notre forme à nous, mais il y en a pas mal des concerts dessinés, de plus en plus, en fait, sur scène.
Et par rapport à l'encre aquarelle, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce médium-là?
C'est surtout que c'est des très belles couleurs, quoi, très, très pêchues. Et puis c'est pas comme l'aquarelle, c'est très... comment dire, liquide. C'est très transparent et moi j'aime bien ça. J'aime bien pouvoir jouer avec l'eau, que ça se diffuse tout seul.
C'est vrai que ça fait vraiment des belles couleurs. Ouais, c'est agréable à travailler.
Il y a, au début, on avait essayé de bosser avec une tablette graphique. Et puis, voilà. En fait, Marie, elle a dit non, finalement, c'est trop techno, ça. C'est trop, ouais. Trop technique. Moi, j'ai envie qu'il y ait des vraies mains et des vraies encres et du vrai papier.
Ouais,
c'est pour ça qu'on a gardé une caméra
papier,
au-dessus.
Ouais. Et vous, François vous qui êtes musicien, multi-instrumentaliste, si je ne me trompe pas.
Ouais, ouais. Je joue trois instruments. Enfin,
ouais. Comment vous avez commencé?
Moi, j'étais d'une famille de musiciens, donc c'est naturellement, gamin, j'ai commencé la flûte traversière, qui est un instrument plutôt classique et plutôt un truc de gamin. Ouais, musique classique, quoi. Mais je me suis pris au jeu, en fait. J'ai fait des stages, j'ai fait des concours, j'ai fait des trucs. Donc voilà, je pense que j'avais un niveau pas mal en flûte, mais ça m'empêchait de chanter. Et en parallèle à tout ça, j'ai quand même grandi avec des gens, alors je ne sais pas si toi tu connais, mais Renaud, Jacques Higelin, qui sont des chanteurs de mon époque à moi, mais quand j'étais ado, en fait, pour moi, c'était vraiment des modèles de gens incroyables sur scène, avec piano et accordéon. Et du coup, j'ai beaucoup appris les deux autres instruments en écoutant leurs chansons et en les rejoignant par-dessus. C'est-à-dire que je jouais les albums entiers d'Higelin et de Renaud chez moi. Et ça m'a permis de me lancer dans ces instruments. Je n'ai pas pris de cours spécialement sur ces trucs-là, quoi.
Autodidacte aussi.
Ouais.
Ouais. Du coup, c'est eux qui vous ont vraiment inspiré à
vous penser. C'est ça. Higelin, je trouve qu'il avait une énergie incroyable quand il était au piano. Et ça, j'avais envie de retrouver ça, parce que j'aimais ça. Puis Renaud, y a l'accordéon, il y a la guitare, il y a cette révolte. Enfin, il y a plein de trucs dans... C'est mon grand frère, quoi.
J'ai un beau-frère qui est millionnaire, qui a fait fortune dans le cellulaire. Un jour, il a pris ses vacances sur les îles de la Délivrance. Il a pris un petit hôtel pas cher, environ deux fois mon salaire. Avec une vue sur l'Atlantique, c'est-il pas beau d'avoir du fric? Tout était presque parfait, sauf quelque chose qui l'intriguait. C'était que tous les après-midi, un homme dormait devant chez lui. Alors mon beau-frère, un peu curieux, lui dit: excusez-moi, monsieur, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Le bonhomme d'à peu près 30 ans lui répondit: je m'appelle Fernand, tiens, bois ça. Puis viens t'asseoir, je te dirai ce que tu veux savoir. Le matin, je me lève vers 6 heures, je saute dans mon bateau de pêcheur. Je ramène un ou deux poissons pour ma femme et mes deux garçons. L'après-midi, je prends ça mollo, je fais une petite sieste au bord de l'eau. Je reviens chez nous, toujours à temps, voir le soleil sur l'océan. Frère répondit: Fernand, tu pourrais te faire beaucoup d'argent si tu pêchais toute la journée et que tu vendais plutôt que donner. Mais qu'est-ce que je ferais de cet argent-là? Fernand, lui, il comprenait pas. Tu t'achètes un très gros bateau qui est mille fois mieux que ton rafio, ce qui fait que tu vas beaucoup plus loin, là où des poissons il y en a plein. Ça va tellement te rapporter, tu prendras une paire d'employés. Plus t'as de pêcheurs, plus t'as de poissons, plus t'as de poissons, moins tu le vends cher, moins tu le vends cher, et plus t'en vends, et plus t'en vends, plus t'es gagnant. Le bon Fernand, tout secoué, regarde avec curiosité et dit: et donc avec tout ça, qu'est-ce que vraiment ça me rapportera? Alors mon beau-frère, sur sa lancée, voir le pêcheur tout étonné, lui dit: comme t'auras plein d'argent, t'auras ta retraite à 50 ans. Le bon Fernand, un peu gêné, lui dit: la retraite, mais qu'est-ce que c'est? Je suis pas vraiment un érudit, mais c'est un mot qu'on dit pas ici. Alors mon beau-frère ferme les yeux, il se concentre, il sourit un peu, il pense à sa propre retraite et se met à penser d'une seule traite. Le matin, je me lèverai vers 6 heures, je sauterai dans mon bateau de pêcheur, je ramènerai un ou deux poissons pour ma femme à la maison. L'après-midi, je prendrai ça mollo, je ferai une petite sieste au bord de l'eau, puis je rentrerai toujours à temps voir le soleil sur l'océan. On aurait dit à ce moment-là que l'homme riche était un autre gars, comme s'il avait vraiment compris que Fernand était plus riche que lui. Aujourd'hui mon beau fait pêcheur quelque part dans le sud de l'Équateur. L'après-midi il se le prend mollo avec Fernand au bord de l'eau.
Vous n'avez pas sorti un album récemment?
Ah si, je fais des albums, ah oui. En fait, quand tu es chanteur, tu fais de la scène et tu fais des albums, c'est un
oui,
peu
la musique.
Oui, la
musique, je veux dire, vous faites des albums. Vous avez fait des albums. Excusez-moi.
Ouais, ouais, en fait, il y a un rythme à peu près de tous les 3 ans, tous les 3-4 ans, il y a de la matière pour faire un nouvel album. C'est toujours un peu bizarre ça, parce que c'est un moment où on fixe les chansons en se disant bah, « ça y est, maintenant, elles ne bougent plus ». Alors qu'en fait, quand je les joue en scène, elles bougent tout le temps. Il y a des trucs que je rajoute, des idées que je retrouve. Donc les albums, ça fige un peu. Et j'ai énormément de mal à réécouter mes albums. Mais au moment où on les a fait, on a mis vraiment plein de cœur pour faire des arrangements, pour voilà, les rendre jolis. Donc là, il y en a un qui vient de sortir, « Jeter l'encre ». Je crois que plus personne n'a des lecteurs CD aujourd'hui. Mais moi, j'ai quand même sorti un CD.
Pour ceux qui en ont toujours.
Ouais, c'est ça. Ceux qui ont des vieilles voitures. En fait, il faut avoir une vieille voiture. Ouais.
Et est-ce que vous avez une anecdote de tournée? Parce que vous êtes en tournée actuellement. Et ouais, est-ce que vous avez une anecdote qui ressort, un souvenir?
Il y a quand même un truc assez récent, mais qui était complètement fou. Cet été, là, on s'est installé à Revel, au-dessus de Grenoble, à la Gélinotte. C'est un lieu magnifique d'ailleurs, je crois que c'est un lieu qui est un peu en danger en ce moment et que ça mérite vraiment de le soutenir parce que c'est un lieu accueillant et génial pour le spectacle. Bref, on s'est installé dehors, il faisait très beau et à 19h on a dit qu'on prenait le temps de manger quand même parce que le spectacle était à 20h et en fait à 19h30 il y a quelqu'un qui est venu nous dire « dites donc, vous savez qu'il tombe des cordes dans une demi-heure, il y a un orage qui se prépare ». Et donc, on a dû tout redémonter, alors que l'install prend quand même 3-4 heures, hein, normalement. Ouais. On a dû tout redémonter. On a été aidé par le public qui nous a aidé à tout transporter sous une halle.
Ça, c'est beau.
C'était génial. Et là, les trombes sont tombées quand tout était à l'abri. Donc, tout s'est vraiment plutôt bien passé. Et les gens qui se sont réfugiés sous la halle aussi nous ont vu tout remonter et tout réinstaller, refaire les balances, refaire les réglages vidéo, tout ça. Et en fait, je pense qu'ils ont assez aimé cette partie du spectacle qui n'était pas encore le spectacle, mais qui était ce que les gens ne voient jamais d'habitude, en fait.
Ouais, bah, ils ont vraiment participé, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai expliqué, bah, voilà, là, le son, par exemple, la voix, elle a un peu trop de grave, donc on va les baisser un peu. Enfin, j'ai refait les balances, j'ai tout refait, et c'était assez rigolo, ouais. Voilà.
Et au final, c'est bien passé, du coup, le spectacle ?
Bah, c'était super, un peu mouillé, mais... Parce que la halle n'était pas étanche.
Ah non, ah oui, du coup au sec, mais pas trop, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ouais. Ça. Non, mais il y en a plein parce qu'en fait, ce spectacle, les spectacles qu'on fait là depuis longtemps, on veut qu'ils soient tout terrain. C'est-à-dire que parfois, on est accueilli sur des gros plateaux avec des belles lumières, des techniciens qui sont là à notre service. C'est super. Mais d'autres fois, on est aussi dans des jardins chez les gens où on a deux pauvres prises qui marchent plus ou moins. Et on aime bien ça aussi. C'est un petit défi, quoi, d'arriver à adapter un spectacle qui était prévu normalement pour des conditions assez grosses et spacieuses et l'adapter dans plein de circonstances un peu compliquées, quoi.
Ouais, ça fait que vous n'êtes pas limité à être dans une salle fermée, quoi, où vous pouvez aller partout.
Ben ouais. Ouais, c'était très lié à notre spectacle Tracer la route. On disait que ça parlait de nos aventures en camion de voyage et on disait que ce spectacle était en voyage aussi, en fait. Et ben, on sait bien que le lendemain, ce sera différent et qu'il faut qu'on s'adapte tout le temps. C'est ça, c'est cette idée-là. Ouais.
Est-ce que vous avez des projets futurs ?
Oh bah on a plein d'idées tout le temps. Après, ce spectacle-là, il a mis plus de 2 ans à se construire quand même, entre les interviews, les décors, tout. Et on a envie de le faire tourner un petit peu avant de passer à un autre projet. Mais après, forcément, on a plein d'envies, on a plein d'idées.
Après Grenoble, où est-ce que vous allez ?
Grenoble, enfin Mélan, ouais, on va vachement voyager, demain on est à Mélan.
Ah oui.
Mais après on est vers Saint-Brieuc je crois et puis on part à Morlaix. En fait on a eu cette espèce de truc en 2023 de partir de la région après 15 ans dans la région Rhône-Alpes. En fait on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on allait en Bretagne on y allait vraiment avec hyper envie d'y aller et quand on revenait en Rhône-Alpes on faisait un peu la gueule. Donc on s'est dit il y a un truc qui est à l'envers, il faut qu'on aille habiter en Bretagne, ce sera plus simple. Et on fera un peu moins la gueule tous les jours. Et du coup, on habite là depuis 3 ans. Et voilà, maintenant, on essaie de construire un réseau plutôt dans la partie ouest de la France pour éviter de faire quand même trop de kilomètres parce que c'est compliqué de traverser la France toutes les semaines.
C'est donc pour ça que vous êtes parti.
Ouais, en fait, c'était un appel de la mer, de la Bretagne. Ouais.
Et comment vous sentez là, l'approche du spectacle ?
Ah, on n'aime pas trop ça, en fait, quand c'est juste avant, en fait.
Ouais.
Juste le moment où les gens commencent à arriver dans la salle et que nous, on n'est pas encore sur scène. Ce moment-là, il est un peu spécial.
Il y a du trac, il y a du stress.
Ouais, il y a un peu de trac qui monte. Puis en fait, on est un peu dépendant de... Enfin, pas dépendant, mais il y a beaucoup de techniques dans ce spectacle. Donc, on est toujours un peu dans l'inquiétude de se dire, pourvu que ça roule, quoi, que ça coule tout seul. Souvent, ça va. Hein. Enfin, je touche du bois. Il y a du bois ici. Non, il n'y a pas de bois. Bon, zut. Mais en fait, j'espère que... Voilà, la chaise en bois. Que ça se passerait bien ce soir, mais en général ça se passe bien, mais c'est vrai que le temps juste avant là, quand on entend la rumeur de la salle, c'est pas le moment qu'on adore, quoi. On préfère, allez on y va là, c'est bon, hop.
Et on arrive sur la fin de cette petite capsule culturelle, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Bah déjà merci de nous laisser un petit espace là pour raconter ça, il y en a plein hein, des gens qui font des concerts dessinés. Voilà, il y a MD à Grenoble qu'on avait croisé, c'est super. Il y a la bande de Litzler et voilà, et du tympan dans l'œil. Et bon, j'espère que ça va continuer concert dessiné parce que c'est un jeu super. C'est un jouet hyper intéressant de mélanger le dessin et la musique. Et de moi, je dis souvent que pour moi, Marie, c'est comme un musicien sur scène, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle n'a pas encore fini son dessin et du coup, je rajoute quelques mesures parce qu'il faut qu'on se retrouve, quoi. Voilà. Et elle, de la même façon, si elle sent qu'elle a fini son dessin mais que j'ai pas fini ma chanson, et ben elle va rajouter quelques petits trucs. Enfin, c'est assez marrant. Ouais.
Soy una vela en el viento, derecha, libre, orgullosa, triángulo blanco en el mar.
Jestem żaglem medycznym, jestem wyprostowany.
Korel, wysaborial,
joy, dumny, wyrzuciały trójkąt tam nad morzem.
Soy una vela en el viento.
A
Es su templada, libre, orgullosa, un triángulo blanco aquí sobre el mar.
Je suis une voile au vent, je suis dressé, libre et fier. Triangle blanc là sur la mer, rien ne pourra plus m'empêcher de danser, de chanter, de goûter enfin l'air. Du large, enivré, enventé, enivré. Je suis une voile au vent, solitaire, je suis calme et j'attends. J'alimente en silence quelques imaginaires de ceux qui me repèrent dans leur petite barque secouée aux embruns, au loin, enivré, enventé, enivré. D'horizon, du pêcheur au chalut ou du gardien de phare, la famille en vacances. Tous, tous me repèrent de loin, je suis leur rêve d'aventure, d'inaccessible, Lorelai blanche. Écoute, écoute, mes écoutilles, mes clics, mes tacs. Mes sons de prise au vent, de là-haut je te chante la chanson du port, des quais, des victoires, des conquêtes, des grandes découvertes. Et le bruit de mes voiles marque le temps qui passe, le temps passé à attendre l'heure du prochain départ, des prochains au revoir, de la prochaine nouveauté à traverser, à traverser.
Inventilated.
Eh ben, ouais, j'ai très hâte de voir ce concert dessiné. C'est la première fois que j'en vois un, en fait. J'en ai jamais vu avant.
Que ça te plaira.
Et merci beaucoup à vous pour votre temps et d'avoir répondu à mes questions.
Ben, merci.
Et on et se retrouve.
Bon vent.
Bon vent. Et on se retrouve pour une prochaine apérophonie. Bonne soirée à toutes et à tous.
Toi qui aimes bien les vieux machins, plus que c'est déglingue et plus que c'est beau, je vais te le trouver ton vieux bateau, qu'aura du chien, qu'aura du chien. Un qui aura du caractère, un qu'on se dira s'il flotte encore, l'a dû mille fois sortir du port et mille fois s'envoyer, s'envoyer en mer. L'a dû en croiser des marins, qu'ont gravé leur nom sur sa coque, l'a dû traverser les époques, un peu rouillé, pas trop repeint. L'a dû essuyer des tempêtes bercées au creux de son carré. des amours naissants, des baisers, des chansons de marins, tu t'attends. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was Billy O'Tea. The winds blew up, a boat dipped down below, my body was blown. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Bonjour Radio Campus, je suis au théâtre de Poche, où j'ai rendez-vous avec la compagnie Les Brèches, qui va présenter son spectacle Le Camp des Malheureux, la londonienne, ce jeudi et ce vendredi. On y va. Alors, les comédiens viennent de sortir de répétition et on est avec Fernand Catry, qui est à la fois comédien et metteur en scène. Bonjour Fernand.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette compagnie, Les Brèches ?
Alors, la compagnie Les Brèches, qui a eu plusieurs noms, mais Les Brèches, ça y est, on le garde. C'est une compagnie que j'ai cofondée en 2018. On était trois à l'origine et puis on a eu des fortunes diverses. Mais voilà, ça continue. L'essentiel de cette compagnie, nous vraiment l'axe principal, c'est les dramaturgies extrêmement contemporaines, donc des auteurs et des autrices vivants, vivantes. Dans les projets qu'on a au compteur, il y en a un que j'ai écrit moi, un d'Ivan Viripayev et celui-ci de Thibaut Fener, sur lequel on est en création. On travaille sur un théâtre narratif, voire de récit, à savoir des dispositifs très très épurés qui laissent vraiment la place aux acteurs et aux actrices. C'est vraiment la matière première du spectacle, c'est de là qu'on part, c'est toujours le point de départ. Et vraiment le travail sur leur rapport au texte, leur singularité, leurs interprétations et leurs sensibilités. C'est-à-dire que si on changeait un ou une des trois interprètes qu'il y a sur ce spectacle, ce serait complètement un autre spectacle.
Alors justement, pour celui-ci, Le Camp des Malheureux, la londonienne, tu as fait le choix d'un texte très contemporain, encore une fois. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer ce double texte ? Est-ce que c'est deux textes différents ? Comment ça se goupille ?
Alors, c'est un diptyque de Thibaut Fener. Thibaut Fener, c'est un auteur qui est également universitaire. Il est auteur associé au CDN de Poitiers, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en 2012. J'ai fait un stage d'écriture sous sa direction. Et j'étais retombé en comité de lecture en 2017, lors de mes études à l'ERAC, sur ce texte-là, qui m'a jamais trop lâché, qui m'a toujours travaillé, interrogé à plein d'endroits. Donc il s'agit d'un diptyque. On a Le Camp des Malheureux, qui est la première partie, et la londonienne. Les deux textes sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Il y a une césure claire, mais nous, on a choisi d'en faire un objet complet pour avoir un petit peu toute l'histoire. Ce texte, il parle du parcours de Morgane Poulet, qui est une jeune musicienne française, expatriée à Londres. Le style de musique, on est plutôt dans le rock-punk, mais il n'est pas spécialement précis. Ça nous laisse aussi la patte sonore. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu dans le fait d'envisager ce texte-là. C'est, en même temps, il y a quelque chose de très très fort, mais il y a aussi toute la place justement pour cette marge d'interprétation, la nôtre, quelles sont nos influences, nos références différentes. C'est vraiment, moi, quelque chose qui m'a beaucoup parlé en jeu. On a énormément travaillé ce qui s'appelle à la table aussi. Je commence toujours les projets de cette manière, à savoir, on fait des lectures. Moi, je travaille sur une distribution, une répartition du texte. Mais on fait des lectures et on en parle. Donc, travail de table, on passe une journée, on lit. Et puis, des fois, on dit, attends, ça me fait penser à tel morceau. Ah bah, écoute, telle musique, tel film. Des fois, on essaye quelque chose et puis on y revient. Mais c'est vraiment travailler à partir du matériau. Donc, évidemment, on ne fait aucune coupe dedans. Je dois couper deux mots de tout le texte qui en fait beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment se laisser porter par ce rapport-là pour être au plus proche de cette matière, le rendre le plus justice, parce que c'est un texte d'une théâtralité assez particulière, dans le sens où il est très narratif et extrêmement lyrique et poétique, mais en même temps il raconte une histoire concrète, vive, à vif, brutale parfois, très organique, et c'est vraiment de trouver l'intimité qui permette cette globalité, quoi, qu'on ait les deux en même temps dans le jeu.
Donc tu parles de narration, tu parles de poétique, est-ce que c'est un texte qui n'est pas fait pour le théâtre au départ et que tu as décidé de mettre sur scène de manière un peu frontale ?
C'est un texte écrit pour le théâtre. Si on me l'avait donné en me disant que c'était une nouvelle, je l'aurais cru. On a eu quelques regards extérieurs qui étaient des amis de la compagnie ou avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler et qui disaient tous et toutes en arrivant, eh ben, je me demande bien comment tu t'es débrouillé avec ça. parce que pour moi c'est une nouvelle. Je pense qu'il appelle la théâtralité, mais il appelle aussi beaucoup de réflexion. Il a été monté une ou deux fois, mais il a été beaucoup travaillé en format lecture mise en espace ou format fiction radiophonique. Donc il y a un rapport très très fort à l'oreille aussi, d'où le fait de... Moi, ça me convenait bien aussi dans le sens de partir d'un dispositif très très simple qui puisse se moduler, évoluer, changer assez vite, mais de ne pas en rajouter, à fond, quoi. Que toutes les images, tout provienne ensuite dans... du travail, mais parle vraiment toujours de ce rapport au texte, quoi. C'est ça avant.
Ce qui apporte la dimension scénique, c'est peut-être aussi vos collaborateurs. Vous êtes trois comédiens sur scène, mais hors scène, il y a aussi un régisseur lumière, un régisseur son, il me semble. Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux pour donner aussi toute cette profondeur-là ?
Alors, les deux sont plus. Karim Ouari a réalisé la mise en lumière ainsi que la scénographie. En général, moi, c'est ma deuxième création avec Karim en tant que metteur en scène, mais j'ai beaucoup travaillé sous sa lumière. Et moi, j'ai la chance et je suis très heureux de travailler avec lui dans le sens où il épouse vraiment toujours le travail du plateau. Il ne va jamais y avoir, parfois dans certains projets, on peut avoir la personne qui nous éclaire, qui nous dit « bah non, attends, t'es pas bien placé ». Avec Karim, on est plutôt à l'inverse dans le sens où « non, si tu veux aller jusque-là, on va travailler un interstice ensemble ». On a travaillé de manière, Karim travaille aussi de manière très indépendante, dans le sens où moi j'ai confiance dans son travail, donc il y a vraiment une dimension où moi je sortais pas du plateau toutes les 5 minutes pour regarder ce qu'il faisait. Je sais que c'était bien, mais en dehors de sa lumière, il a aussi proposé toute une scénographie, donc tout un dispositif qui spatialise autrement la pièce, qui l'ancre dans un espace assez beau et assez fonctionnel aussi. Toujours l'idée qu'un espace puisse évoluer en peu de temps, mais que ce soit pas un lieu défini réaliste. Ce qu'on appelle scénographie, c'est aussi beaucoup tout le dispositif, la manière dont les objets peuvent se déplacer ou non, qui n'a pas grand-chose à voir avec le décor finalement. C'est comment on va habiller et qu'est-ce qu'on va utiliser, sachant que moi, étant donné que je travaille de manière très économe, je pars avec beaucoup de choses au début. Et à la fin, j'ai enlevé les trois quarts de proposition d'objets qu'il y avait sur scène. Il reste quasiment rien. Dans le dispositif, par rapport à la musique, donc on a Patrick Sauvel qui est à la sonorisation. On est deux musiciens, deux comédiens musiciens sur ce spectacle. L'idée, c'était vraiment d'articuler la musique et de la faire communiquer avec le texte, que parfois, la guitare presque... amène des ambiances, des temporalités, mais aussi que parfois la voix humaine devienne un instrument de musique au sein d'un morceau. C'est aussi un aller-retour qu'on a beaucoup cherché. Et effectivement, le travail de Patrick s'articule beaucoup sur prolonger ce sens-là, sur la sonorisation et la spatialisation du son. Donc toujours au service du texte, de dire bah, si on met ça à tel volume, on entend moins mécaniquement, mais aussi il y a ce qu'on appelle de la multidiffusion, donc il y a des enceintes à plusieurs endroits dans la pièce dans laquelle on joue, et de dire bah, si le son part de derrière, ça va nous évoquer ça, si le son part de devant, on n'a pas l'impression que c'est ce que vous jouez, donc c'est vraiment toute l'imbrication. Leur travail se situe beaucoup à cet endroit-là, et effectivement il est indispensable parce qu'il demande des yeux et des oreilles très très aguerris et très disponibles.
Pour revenir un peu au texte, il me semble on parle d'une fresque sociale, politique et intime. Et j'ai lu aussi que la pièce parle notamment du statut de l'artiste. Comment est-ce que ça résonne avec vos vies d'artiste aussi, vous, sur scène et autour, parce que j'ai l'impression que c'est une création collective un peu, où le scénographe a aussi son regard sur le travail des acteurs, que les acteurs peuvent travailler entre eux sur la mise en scène. Enfin, quelque chose d'assez joyeusement collectif.
Voilà. Oui, on a appelé ça entre nous de l'intelligence collective, à savoir qu'à la fin, c'est moi qui ai le dernier mot, mais que par contre, tout le monde a le droit d'avoir des bonnes idées et tout le monde a même la possibilité, le devoir presque même. Voilà, c'est aussi ça, des singularités, c'est partir des propositions de tout le monde au plus loin possible. Après, le travail, c'est de trier les bonnes propositions parce qu'il y en a plein. Et c'est de faire des choix, mais effectivement.
Et sur le statut de l'artiste,
pour le statut de l'artiste, il intervient à différents niveaux, rapidement, même dans le rapport des personnages, il y a toutes ces questions-là aussi, parce qu'on est dans un univers un peu interlope, rock'n'roll, underground, et en même temps, il y a toujours c'est quoi être un artiste, parce qu'on suit Morgane Poulette, qui est cette jeune musicienne, et son histoire d'amour complexe avec Thomas Bernett, qui lui est un jeune acteur, un golden boy de série de divertissement. Donc ça nous interroge à cet endroit-là aussi, dans le sens où entre ces milieux-là, il y a évidemment des passerelles, mais il y a aussi des choses qui n'ont profondément rien à voir. Et oui, c'est assez drôle là où ça s'entrechoque, parce qu'il y a des contraintes qu'on connaît, d'autres pas du tout, qu'on imagine. Et oui, qui donne pas mal de discussions entre nous, pas mal de réflexions à dire, ah, mais t'imagines, nous, on n'est pas comme ça. T'imagines, t'as le pouvoir de faire ça. Et à l'inverse, oui, ça pose ces questions intéressantes aussi de dire, bon, est-ce que un artiste ou une artiste, c'est juste quelqu'un qui galère et qui ne se renie pas aussi. On arrivait chacun chacune avec nos influences musicales. Moi, celle qui est très présente, c'est le rock indé californien. Donc il y a toute la question entre Brian Johnston Massacre et les Dandy Warhol, ces espèces de guéguerres. Bah, dès que les Dandy Warhol ont été produits par un gros label, Brian Johnston les ont traités de vendus. Mais au final, moi, je suis un foutu de me décider entre les deux. Enfin, c'est le même genre de débat que Stones, Beatles, quoi. Qu'est-ce qui est du rock? Qu'est-ce qui est de la création? Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui est commercial? Il y a de tout dans les deux. Il y a vraiment de tout dans les deux, ouais.
De la même manière pour le théâtre aussi.
Exactement, aussi, ouais.
Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une petite pépite à nous partager pour ces jours de travail? Parce qu'il me semble que la création a 15 jours. Vous avez fait les premières fin novembre. Et là, on vient vous voir à Grenoble le 4 et 5 décembre. Ouais. Alors, un petit secret de cuisine.
On est en plein rodage. On est toujours en plein rodage. Non, là, on est vraiment sur les premières. Donc, le dispositif commence à s'asseoir vraiment et ça continue à grandir. Petite pépite, nous, dans les recettes, de la patience, du repos et de l'écoute beaucoup aussi. Ça va avec l'intelligence collective. C'est pas juste l'idée d'être copain et d'être bonne ambiance, mais c'est d'arriver à cohabiter au mieux et que chacun, chacune trouve son endroit d'expression sans trop marcher sur les autres. Voilà, que tout le monde, d'arriver à fournir et à nous auto-fournir les meilleures conditions de travail possibles qu'on a eu la chance d'avoir, que ce soit lors de la création à Ebain ou au TMG, on a été très très bien accueillis, très 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 soignés, très accompagnés. Mais c'est toujours ça, de trouver le moment entre nous. Donc là, à la fin de ce filage, ça va être la fin de la journée pour tout le monde et chacun fait comme il veut. Mais chacun, chacune est encouragé à se coucher pas trop tard et à manger léger ce soir.
Bon, alors on va vous laisser vous reposer. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps. Merci. Pour ça. Vous l'avez compris, ça se passe le 4 et 5 décembre au Théâtre de Poche. Et c'est le Théâtre des Brèches qui présente Le Camp des Malheureux, La Londonienne. Merci.
Merci.
Et c'était quoi?
L'apérophonie!
Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie!
C'est quoi?
L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8!
Ah, sur Campus Grenoble 90.8!
Oui!